Bulle d'histoire.
Hein ?
Stéphane Dubreuil.
Waouh !
Grande et petite histoire dans l'œil des auteurs de bande dessinée.
Bonjour à tous, il est 10h30 sur Art District Radio et c'est l'émission Bulle d'Histoire. Exceptionnellement donc, j'anime cette émission à la place de Stéphane Dubreuil, mais on n'a pas totalement perdu Stéphane puisqu'il est là à ma droite.
Non, je suis là, bonjour.
Voilà, bonjour Stéphane. Alors, en tant qu'invité, cette fois, exceptionnellement, accompagné donc d'un deuxième invité, Thierry Lemaire, bonjour.
Bonjour Julie.
Alors pourquoi vous êtes ici tous les deux ? Bien parce que vous êtes les cofondateurs d'un site internet qui s'appelle Cases d'Histoire, casesdhistoire.com, un site très fourni sur la bande dessinée. On va développer donc ce sujet aujourd'hui. En préambule, donc je rappelle que Stéphane Dubreuil officie régulièrement sur notre web radio depuis quelques mois en tenant donc cette émission Bulle d'Histoire qui invite et rencontre à chaque fois des scénaristes ou des dessinateurs, des auteurs de bandes dessinées historiques. C'est une passion à côté aussi d'une passion pour l'histoire. Et Stéphane, on le connaît déjà un petit peu ici, donc je ne vais pas complètement développer son parcours et son profil, mais Thierry Lemaire, on ne vous connaît pas.
Ah,
alors
oui.
Vous êtes un ami de Stéphane, je suppose,
oui,
et vous êtes avec lui le cofondateur donc, de Cases d'Histoire, mais je ne vais pas déroger en fait, à une question rituelle que Stéphane Dubreuil a instituée dans son émission. Donc je vais la poser également. C'est la question de qui êtes-vous ? C'est très énigmatique.
Oui, je n'ai pas préparé, c'est dommage. Je vais improviser. Mais c'est vrai qu'on a pas mal de points communs, et notamment le fait qu'on a une formation d'historien. Formation universitaire d'historien. Moi, j'ai continué avec de l'archéologie, mais on a tous les deux une solide formation d'historien et on est arrivé dans le journalisme de fil en aiguille, on va dire. Et puis, moi, j'écris sur la bande dessinée depuis une grosse quinzaine d'années et depuis une petite dizaine d'années, je n'écris plus que sur la bande dessinée.
D'accord, donc c'est vraiment
c'est ma spécialité.
Vous êtes journaliste spécialisé
en bande dessinée.
Ouais. Cases d'Histoire, donc c'est un site internet qui a été créé quand ? Depuis combien d'années il existe ?
Alors c'est un site qui a été créé en 2015. C'est Stéphane qui a eu l'idée, le premier qui s'est dit c'est vrai qu'il y a beaucoup de bandes dessinées historiques qui sortent tous les ans. On en avait,
on est à peu près 500 par an, tout genre confondu. Hein.
En sachant que l'année dernière et cette année, il y a à peu près 5000 sorties bandes dessinées par an. Donc ça fait quand même un gros pourcentage de bandes dessinées qui ont un fort arrière-plan historique.
Voilà, alors, donc c'est 500 sur à peu près 3000.
C'est 5000 et
on a environ 10% de bandes dessinées historiques chaque année.
Qui ont un fort arrière-plan historique. Après, ça peut être des fictions, c'est pas forcément des biographies, la vie d'un grand personnage. Ça peut être des fictions, mais avec vraiment ancré dans l'histoire, avec un arrière-plan très fouillé, très détaillé. Et effectivement, Stéphane s'était dit, il n'y a aucun média qui ne parle que de ça.
Mmh.
Généralement, c'est des médias généralistes qui parlent de la bande dessinée.
Tout genre confondu,
tout à fait. Et il n'y a aucun média spécialisé dans la bande dessinée historique.
Donc vous êtes toujours le seul média spécialisé là-dessus ou il y a eu des petits
formés On peut dire qu'on est le seul.
Non,
on est absolument le seul. On est aussi le seul à avoir cette approche qui est de parler de la bande dessinée comme des historiens, et pas comme des historiens de la BD ou comme des critiques de BD. C'est-à-dire que chaque album est décortiqué, entre guillemets, avec un regard historique. Mmh. Donc on ne traque pas forcément le bouton de culotte ou la petite erreur, mais on va essayer de donner un éclairage historique pour que les lecteurs s'y retrouvent dans cette production qui est 500 albums, c'est beaucoup, on ne peut pas tous les lire, et les qualités sont variables, donc on essaye d'avoir un regard éclairé et éclairant sur tous ces albums qui sortent.
Et alors vous vous concentrez sur la production uniquement française, ou vous allez un petit peu voir ce qui se fait aussi à l'international sur ce genre ?
Ah bah là pour le coup, effectivement c'est le genre historique, mais alors manga, comics, peu importe l'origine des albums, on a déjà traité pas mal de mangas. C'est un peu moins le cas pour les comics parce que les Américains ont moins ce goût pour faire des récits historiques. Donc,
pourtant, ils sont très doués en storytelling et on voit dans les films qu'ils adorent raconter des histoires, mais c'est moins en bande dessinée.
En bande dessinée, oui. Alors, il y a tous les comics de super-héros qui, là, c'est quand même la grosse masse des comics américains où c'est très rare qu'il y ait vraiment des allusions à l'histoire. Et toute la bande dessinée un peu plus indépendante américaine, c'est pareil. C'est plus des histoires contemporaines. Ils ont plus ce goût-là. Donc, comics moins, mais manga, ouais. Manga.
Et puis, on traite surtout des albums qui sont traduits en France. Voilà, on s'est pas encore attaqué aux albums en langue originale.
Ah oui, là, c'est une autre... Mais pour nos lecteurs qui sont français en grande majorité, ou francophones, en tout cas, en grande majorité, effectivement, c'est mieux de pouvoir les acheter, acheter de quoi on parle. Et pour préciser un petit peu aussi l'angle historique qu'on a voulu prendre, c'est qu'il y a un grand nombre de nos rédacteurs qui sont professeurs d'histoire géo, ou alors qui sont thésards en histoire, donc qui sont enseignants en histoire. Donc il y a un petit peu, c'est un peu le pont entre le métier d'historien, la recherche historique et puis le grand public.
Donc vous avez créé une communauté de rédacteurs autour de vous, puisque vous êtes les deux cofondateurs, vous êtes également rédacteur évidemment sur ce site. Combien de personnes ça fait en tout ?
Alors, c'est variable. Il y en a qui...
Des passionnés de BD à chaque fois. Hein. C'est-à-dire que c'est à chaque fois des historiens
tout à fait.
Qui aiment la bande dessinée.
Tout à fait. Alors, il faut signaler aussi qu'il y a un troisième journaliste qui est venu se joindre à nous un petit peu après, mais pas très longtemps après, qui s'appelle Philippe Peter, et qui est aussi journaliste spécialisé en bande dessinée. Donc, on est trois journalistes un peu à cornaquer un peu tout ça. Et puis, il y a... je ne sais pas combien on peut être, une dizaine de...
Ouais, une grosse dizaine, 10-15 entre ceux qui sont très réguliers.
Voilà.
Et alors les publications, c'est assez régulier, c'est... À quel rythme on peut lire votre site internet? Est-ce que c'est chaque jour, chaque semaine?
On essaye d'être le plus régulier possible, ce n'est pas toujours évident. Depuis quelques mois, on a un rythme de un article tous les deux jours à peu près. On a trois articles par semaine, trois critiques de bande dessinée. Alors ça peut être des critiques de bande dessinée, ça peut être des interviews d'auteurs, ça peut être aussi, alors parce qu'on fait, les deux.
Le site est très fourni. Alors il y a vraiment le côté sortie d'album avec un article qui commente, qui critique, j'imagine aussi, ou qui recommande ou qui pose aussi peut-être un regard un peu critique. Hein. Il y a peut-être pas que des.
Oui, c'est pas toujours. On n'est pas toujours
des arguments positifs. Tant mieux d'ailleurs, c'est du journalisme. Et puis il y a aussi effectivement une rubrique sur des interviews soit écrites. Soit filmé aussi, j'ai vu. Vous interviewez des chercheurs ou des historiens pour éclairer, j'imagine, des sujets historiques. Et est-ce qu'à travers ces interviews, on s'aperçoit que les auteurs de bandes dessinées, qui ne sont pas forcément des historiens spécialisés à l'origine, sont parfaitement précis dans leurs recherches, ou est-ce qu'il y a quand même beaucoup de fantasmagorie ou d'imaginaire dans la BD, ou voilà, qu'est-ce qu'il en ressort de ces interviews?
Il y a un peu les deux écoles. Il y a ceux qui sont extrêmement précis, extrêmement documentés.
Et... Parce qu'on fait de l'histoire quand même.
Et ça commence à être la grande majorité des scénaristes et des dessinateurs, puisque maintenant la documentation, grâce à Internet, est disponible pour tout le monde, ce qui n'était pas le cas il y a 10 ans même. Donc ça, c'est la grande majorité. Sont des gens sérieux, sont pas forcément des bons albums au final, mais en tout cas sont...
Oui, mais alors voilà, il y a du sérieux, et puis j'imagine qu'ils vont à chaque fois prendre des éléments auprès d'historiens et auprès d'archives. Voilà.
Mais en même temps, la bande dessinée, c'est aussi un loisir, donc ça doit rester une œuvre romanesque. C'est pas une thèse d'histoire, c'est pas un cours, donc ils doivent toujours, être sur le fil du rasoir entre raconter une bonne histoire... sans raconter n'importe quoi, comme on a pu le dire il n'y a pas longtemps sur Case d'Histoire.
Ah oui, alors par exemple, ça nous intéresse, des mauvais élèves.
qu'est-ce qu'on pourrait... C'est moche de faire ça, mais c'est moi qui l'ai écrit en plus, donc je peux le faire.
Mais comme c'est, on peut le lire sur le site, donc on peut le dire aussi ici.
C'est un album qui s'appelle Face à Face, qui raconte le face-à-face entre Hitler et Staline, et qui est absolument truffé de choses incohérentes, de graves erreurs historiques, que par exemple Hitler mangeait de la viande. Ça peut paraître un détail, mais c'est quelque chose d'important. Hitler ne mangeait pas de viande, or là il a un pilon de poulet à la main, il boit du vin alors qu'il ne buvait pas de vin. Enfin là, ça c'est un détail qui peut paraître un détail, mais il y a d'autres erreurs extrêmement importantes. C'est pas dans notre habitude de titiller ce genre de choses, mais là on pouvait pas faire autrement parce que
oui, puis c'est votre rôle aussi, parce que finalement c'est comme des livres d'histoire. On a tendance à dire oui, la bande dessinée c'est peut-être un peu plus léger, on peut se permettre peut-être justement d'être plus léger. Alors certes, pour alimenter ce côté un peu plus ludique, un peu plus plaisir, évidemment, servi par le dessin. Ceci dit, sur les bandes dessinées historiques, justement, le sérieux de l'histoire doit quand même être respecté. Donc c'est aussi votre rôle, peut-être, d'éclairer là-dessus et de dire, voilà, vos avis aussi de journaliste.
Oui, alors effectivement, y a, tout dépend quel est l'angle pris par l'auteur. C'est-à-dire que si l'auteur veut faire une fiction, heroic fantasy, quelque chose de très... qui a un lointain rapport avec l'histoire. Mais...
Oui, mais là, dans le cas d'Hitler, par exemple, voilà, il y a peut-être des lignes rouges à ne pas franchir.
Là, la collection Face à Face, c'est vraiment... Enfin, ça se prétend comme quelque chose de sérieux, de rigoureux, tout ça. Donc là, il y a un problème. Là, il y a un problème parce que ça aurait été une parodie du face-à-face Hitler. Bon, bah, Hitler, il n'est pas végétarien. Et c'est
oui, dans
pas
le
grave.
Style parodique, voilà, tout à fait.
Voilà.
Oui.
Mais là, ce n'est pas possible.
Assumer...
À partir du moment où les auteurs et la collection affichent une rigueur scientifique, là, on ne peut pas laisser passer des choses comme ça.
D'autant que dans notre public et parmi nos lecteurs, il y a beaucoup de profs d'histoire qui utilisent la bande dessinée comme des supports pédagogiques en cours.
Ah oui,
et
ça se fait.
Thierry
fait
a animé une formation.
À mon époque, je me souviens pas de ça.
Non, c'est vrai.
Ça fait quoi? Ça fait 4-5 ans que ça.
Moi, je dirais plus, mais après, c'était certains professeurs qui utilisaient ça. Il n'y a pas spécialement de consignes de l'éducation nationale. C'est des professeurs qui aiment beaucoup la bande dessinée et qui se rendent compte que vis-à-vis des élèves, il y a des messages qui passent plus facilement. Une vignette, on rentre un enfant.
Puis on est à l'ère de l'image.
Un ado rentre plus facilement dans une thématique. Donc, il y a de plus en plus de professeurs qui utilisent la bande dessinée et on s'en rend compte. À chaque fois qu'on parle de bande dessinée historique avec des professeurs d'histoire géo, il y a les yeux qui pétillent et ils disent « Ah oui, j'adore, parce que là j'ai utilisé ci, ça, Mao, spam, bim, bam. » Et là, tout de suite, il y a des choses qui arrivent. Et c'est vrai que le public d'enseignants d'histoire est assez, de plus en plus important, et des professeurs documentalistes aussi. Parce que dans les CDI, par exemple, quelle bande dessinée acheter pour mettre dans le fond d'un CDI? Et ben là, en lisant Case d'Histoire, ils ont un peu plus de...
Voilà, il faut lire Case d'Histoire, casedhistoire.com. Alors, ça m'amène à une autre question que j'avais envie de poser. On l'a rappelé, donc 500 titres par an aujourd'hui. Est-ce que vous avez vu une explosion de la bande dessinée historique ces dernières années? Parce que c'est vrai que entre les... Alors, il y a le roman graphique, c'est un petit peu différent, mais moi, j'ai l'impression d'avoir vu beaucoup plus de bandes dessinées sur des personnages historiques ces dernières années.
Alors, il y a des évolutions, effectivement, il y a des évolutions. On ne va pas remonter jusqu'à Mathusalem, mais la bande dessinée historique, on va dire rigoureuse, elle apparaît quand même à la fin des années 70 seulement. Mm-hmm. La bande dessinée est quand même beaucoup
plus... C'est un genre nouveau.
Traité comme ça. Avant, il y avait des comédies, un peu avec un arrière-plan historique. Là, il y a Tardy, il y a Bourgeon avec Les Passagers du Vent, et là, on passe à autre chose, on passe à des auteurs qui se documentent, qui font des choses très sérieuses. Donc, il y a ce jalon-là, fin des années 70, début des années 80. Et en fait, depuis le début des années 2000-2010, on se rend compte qu'il y a de plus en plus de scénaristes qui sont historiens de formation. Donc, ça change complètement la façon de voir les choses, d'appréhender un scénario. Ils vont chercher des sujets beaucoup plus intéressants, beaucoup plus originaux, beaucoup plus des petits détails de l'histoire qu'ils arrivent à sublimer comme ça. Donc ça, c'est vraiment une évolution. Et effectivement, avec ça, comme il y a une évolution de la qualité globale des histoires, des récits historiques en bande dessinée, il y en a plus aussi parce que ça donne envie d'en faire, évidemment. Donc effectivement, il y a quand même le genre historique à de beaux jours devant lui.
Il y a quelques séries qui ont beaucoup, beaucoup de succès. Donc les éditeurs sont aussi amenés à multiplier pas mal de séries parce que ça se vend. Donc c'est
tout à fait
positif. Oui.
Et on peut d'ailleurs... Enfin, effectivement, je parlais de la fin des années 70 pour quelque chose d'un peu rigoureux. Mais bien avant, on peut citer la série qui se vend le mieux en France, en Europe aujourd'hui, dont le prochain tome va sortir le 24 octobre, c'est Astérix. Astérix, voilà. C'est une bande dessinée historique, mais qui n'a pas tout à fait la même rigueur. Et puis, ce n'est pas le sujet.
C'est une des premières, peut-être.
La première, bon, celle qu'on...
Avec un traitement, évidemment, humoristique de l'histoire.
Tout à fait. Donc, c'est 1959, le premier Astérix. Alors, on dit que la première bande dessinée, la vraie bande dessinée historique, c'est Alix. Et Alix, c'est juste, c'est 47. C'est la première bande dessinée qui prend vraiment un arrière-plan historique épais, fourni. Ça se passe en Gaule, il y a César. Et donc, là, c'est la première bande dessinée vraiment, et sérieuse aussi. Après, les auteurs de l'époque, ils avaient la documentation de l'époque. Et
ça
c'était
a
pas
évolué.
Pareil. Voilà,
il faut
Stéphane
peut-être
parlait
réviser
de...
certaines tout à fait. Bandes dessinées historiques, comme on révise des livres d'histoire, hein, d'ailleurs.
Ah bah c'est sûr, c'est sûr.
Enfin, ceci dit, ce qui est à noter, c'est que ce soit Alix ou Astérix, parmi les pionnières des bandes dessinées historiques, ça se vend toujours autant, j'imagine. C'est toujours un succès en librairie. Oh, et en plus, oui. Ça ressort régulièrement.
Ah oui. Bah, Astérix, là, le prochain album qui sort, là, il est tiré en Europe à 5 millions d'exemplaires. Donc,
c'est extraordinaire, quand même.
On peut parler de succès.
Est-ce qu'on peut parler d'autant d'exemplaires sur d'autres genres? Oui.
D'autant d'exemplaires
dans la bande dessinée.
Astérix, c'est le
plus
gros vendeur. Oui. Donc, après, il y a Tintin, mais Tintin, en ce moment, comme il n'y a plus de nouveaux albums, le tirage baisse. Mais non, Astérix est loin devant... en ce moment...
Non, mais il y a de belles séries qui ont des tirages de 25 ou 30 000. Ça, c'est le haut du panier.
C'est déjà bien. Aujourd'hui, c'est déjà pas mal. Ouais. Mais d'autres, il y a d'autres séries historiques un peu sur le ton de la comédie. C'est par exemple Les Tuniques Bleues.
Oui.
Les Tuniques Bleues, ça a commencé au tournant des années 70. Les Tuniques Bleues, c'est toujours... Il y a un album qui est en prépublication dans le journal de Spirou en ce moment, donc ça continue.
Ça continue.
Et,
oui.
et ça se vend toujours bien. Tuniques Bleues, les tirages doivent être autour de 100, 150 000 exemplaires, donc ça se vend toujours bien, Les Tuniques Bleues. Donc il y a effectivement la partie bande dessinée historique sérieuse, traité dans un mode un petit peu adulte et puis un peu dramatique, un peu. Et puis il y a aussi des bandes dessinées pour la jeunesse, des bandes dessinées comiques et qui sont historiques.
Alors,
il y a vraiment plein de pistes.
Plein de pistes. Et alors, en farfouillant un peu votre site internet, casedhistoire.com, je le rappelle, donc, en fait, j'ai quand même été interpellée par un titre. Le Festival d'Angoulême aime-t-il la bande dessinée historique? C'est un des titres de vos articles assez récents, ce qui signifie finalement que peut-être, il y a encore ce genre particulier de la bande dessinée est un peu mal aimé encore ou moins diffusé en tout cas dans la presse peut-être.
Alors c'est moi qui avais écrit cet article-là sur le Festival d'Angoulême de cette année, du début d'année.
Oui, c'est assez récent, oui.
C'était un petit peu provocateur quand même, je dois dire, parce que finalement...
Le constat c'était quoi?
Le constat c'est que, oui quand même, il y a une place laissée à la bande dessinée historique qui est assez importante. Il y a eu, c'était l'année dernière je crois, l'exposition Alix. Ou l'année d'avant, je ne sais plus. Et il y a quand même des tables rondes qui abordent le sujet. Il y a des expositions qui peuvent aborder le sujet. C'est pas un sujet majeur. Alors c'est pas un sujet majeur du Festival d'Angoulême parce que c'est pas le fonds de commerce du Festival d'Angoulême. Le Festival d'Angoulême, c'est plutôt roman graphique, bande dessinée un peu plus contemporaine. Et puis surtout, je crois aussi qu'il y a une mauvaise image de la bande dessinée historique. Quand on dit bande dessinée historique, beaucoup de lecteurs ont en tête l'histoire de France en bande dessinée chez Larousse, qui était une série publiée à la fin des années 70, qui passait en revue les grands hommes, les grands événements. Bon, avec des scénarios qui étaient un petit peu légers, mais avec des très grands dessinateurs, mais avec des scénarios qui étaient un petit peu très classiques, très lourds. On va vous raconter la biographie de tel personnage. Alors, il est né telle année, il est mort telle année, ta.
Oui, voilà.
Pas très intéressant à lire aujourd'hui.
Pas très pétillant à lire.
Voilà.
Oui.
Donc, on a peut-être cette idée-là de la bande dessinée historique un peu lourde, un peu manuel scolaire.
Mais ça a bien changé.
Et ça a bien changé. Il faut lire ce qui sort en ce moment. Et ouais. Ça a bien changé. Ouais.
Une toute dernière question. Est-ce que vous parlez de romans graphiques? J'avais posé cette question à Stéphane un petit peu avant.
On parle vraiment de tout. Il n'y a pas d'exclusive. On n'est pas mono-genre, j'allais
dire. Parce que, bon, il y a certains tenants, il y a certains fans en fait, de bandes dessinées qui ne sont pas hyper fans de romans graphiques. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui existe vraiment? Est-ce que...
Après, il y a des auteurs qui sont entre les deux, j'allais dire. Par exemple, si on prend des auteurs comme Chris et Maël avec Notre Mère la Guerre, donc une série qui a eu beaucoup de succès, qui est absolument enthousiasmante et prenante, ça ressemble à la fois un peu à la BD traditionnelle et en même temps à du roman graphique. On est entre deux genres, mais à part ça, on s'interdit rien du tout, quoi.
Alors, on s'interdit rien du tout parce que ça peut se croiser. Hein. Il y a des romans graphiques historiques. Et d'ailleurs, je rappelle que un des premiers romans graphiques qui a eu cette appellation-là, c'est Maos. Et Maos, ça parle de la Seconde Guerre mondiale, c'est un roman graphique historique. Donc il y a des romans graphiques historiques. C'est des choses qui sont un peu plus ambitieuses, donc c'est pas facile parce qu'il faut le temps de les faire. Souvent c'est des gros pavés. Donc il y a aussi la situation financière qui fait que si ça prend trop de temps, bah après les auteurs ils peuvent pas en vivre. Donc il y a des équilibres à trouver, mais des romans graphiques historiques, ça existe.
On peut citer Tardi. Tardi, c'est...
Et Tardi aussi.
Oui, bien
du
sûr.
Roman graphique, quoi.
Mmh. Ouais.
Alors avant de se quitter, j'ai envie de vous demander peut-être ce qu'on peut lire en ce moment. Si vous avez un choix chacun d'une bande dessinée sortie récemment, qu'on peut se procurer, Noël approchant en plus, qu'est-ce qui est sympa en ce moment à lire? Peut-être un choix chacun, un pour Stéphane, un pour vous Thierry.
Moi j'en ai deux, mais ça va être...
Enfin, ou deux, allez, allons-y.
Moi j'ai deux coups de cœur cette année. Le premier album, il s'appelle Révolution. C'est Florent Grauzel et Youn Lokar, chez Actes Sud BD. C'est une BD reportage sur la Révolution, presque caméra sur l'épaule, on est dans la foule, on voit les premiers événements, parce qu'il va y avoir plusieurs tomes, on voit les premiers événements, le déclenchement de la Révolution française. Fascinant, extraordinaire, remarquable. Révolution.
Très bien. Deuxième choix.
Le deuxième, pareil, gros coup de cœur de la rentrée, Les Indes Fourbes, par Erol. Erol et Guarnido, chez Delcourt. C'est l'histoire un peu à la Don Quichotte, histoire picaresque d'un aventurier qui part dans le Nouveau Monde au XVIe siècle. Qui rencontre un peu les conquistadors, il y a une histoire d'or, or des Amérindiens à trouver. C'est fabuleux.
Un peu les cités d'or
en
bande dessinée.
Un peu ça. Guarnido, qui est le dessinateur de Black Sad, et le dessin est fantastique.
Très connu.
Et
ouais.
Le scénario est extraordinaire. Voilà.
Alors, un petit dernier, peut-être, Stéphane.
Bon, alors, deux aussi, parce que
deux.
je peux pas faire
mais oui.
Bon, le premier, c'est un auteur qu'on a reçu dans Bulle d'Histoire, c'est Raphaël Meissan.
Oui.
Qui donc raconte l'histoire de la commune avec à partir de revues, de gravures du 19e siècle. C'est remarquablement écrit, c'est virtuose dans la narration, virtuose dans le montage. Pour moi, c'est mon coup de cœur depuis quasiment 3 ans. C'est merveilleux.
Et puis on peut retrouver le podcast de l'interview intégrale
en plus,
sur Art District. Sur Art District, oui.
Et l'autre, c'est un album moins pas joyeux du tout, mais c'est le Rapport W. Le dessinateur, c'est Gaëtan Nock, et c'est l'histoire d'un résistant polonais qui se fait enfermer volontairement à Auschwitz.
Oula.
Avec l'idée chimérique de monter un réseau de résistance dans le camp de concentration. Évidemment, il ne va pas y arriver pour des tas de raisons qu'on peut imaginer, mais c'est un album absolument bouleversant. Le dessin est superbe. L'écriture est remarquable, c'est vraiment là aussi un des très très grands albums de l'année.
Eh bien voilà, donc quatre bons choix donc à découvrir.
Oui, je souscris pour les deux de Stéphane, je souscris aussi.
Parfaitement.
C'est des coups de cœur aussi. Ouais.
Donc on va aller découvrir tout ça. Et puis évidemment, pour plein d'autres choix et une diversité très, très enthousiasmante, j'allais dire, sur votre site internet. En plus, il y a des images, on peut même découvrir quelques planches de bandes dessinées un peu en avant-première pour vraiment ceux qui sont aficionados de ce genre. Et je rappelle que donc casedhistoire.com, c'est en plus un des seuls, voire le seul média en ligne finalement qui parle de bandes dessinées historiques et beaucoup d'histoires, donc.
C'est le seul.
Oui, oui. Et c'est le seul, voilà. Donc on le redit. c'était Thierry Lemaire et Stéphane Dubreuil. Vous êtes donc cofondateurs tous les deux de ce site internet. Merci beaucoup d'avoir été ici.
Merci Julie.
Dans
merci
Bulle Julie. D'Histoire. Et puis Bulle d'Histoire, évidemment, maintenant je laisserai ma place à Stéphane pour la prochaine fois qui reprendra le micro. Bah, merci.
On reprendra en décembre et ça fera un an
et
en fait.
Et en plus, on fêtera les un an de Bulle d'Histoire. Donc c'est parfait. Merci beaucoup. Je vous dis au revoir à tous les deux.
À bientôt.
Bulle d'Histoire. Bulle d'Histoire avec Stéphane Dubreuil.
Waouh !
Une émission à retrouver le mardi et le samedi à 10h30.